voix de service, mercredi 9 janvier 2019. Bonjour, bienvenue dans cette émission sous le thème de la saison grippale. Vous allez reconnaître dans nos voix qu'on a décidé d'inaugurer la saison en grande.
Absolument.
Et d'ailleurs, on va peut-être parler un peu de remèdes dans l'émission. Mais en première partie, premièrement, bonjour Serge.
Bonjour.
Je suis en compagnie de Serge Bradet.
Bonjour, bonjour.
Et non pas en compagnie de Daniel Lachance qui prend congé cette semaine.
Eh oui, il nous a lâché.
Je suis là, moi-même, Isabelle Falardeau, mise en onde. Puis on a Mathieu Tessier qui remplace à pied levé notre collègue qui est pris dans le métro parce que c'est aussi la saison des interruptions de métro. Ça, c'est toute l'année.
Oui, oui, oui.
Alors, en première partie d'émission, je vais vous parler d'un balado pour promouvoir la langue crie. Peut-être aider les jeunes à privilégier le crie plutôt que l'anglais parce que c'est ce qui est le cas en ce moment. Et de votre côté, Serge?
Vous rappelez-vous, en 2008, il y a eu un monument qui a brûlé à Québec.
En 2008?
2008, oui. Un monument historique.
Ah, vous allez donc
nous en parler.
Oui, c'est ça, le Manège de Québec. Alors, je vais vous parler de ça.
Excellent.
Et également, les femmes sur les timbres au Canada.
Ah, ça, c'est très intéressant.
Oui, c'est un article un petit peu vieux qui date de 1990, mais déjà à l'époque, on avait commencé à souligner ça.
Et donc, vous ne parlez pas de la reine, évidemment. Là. Les autres femmes.
Petite surprise.
Ah, d'accord, merci. Alors, Serge, vous commencez tout de suite avec ce fameux manège qui a brûlé en 2008.
Mm-hmm. C'est dans la revue Décor Home. Surprenant comme...
Ah oui, j'avoue.
Oui. Et non, des fois,
c'est
il y a des...
avant, après, il a brûlé, puis après ça, on l'a rénové.
Oui, l'article, c'est ça, parle de ce qu'ils ont fait comme... parce que c'est un édifice historique, donc vous devez le refaire en tenant compte de certains critères, certaines balises.
D'accord.
Alors c'est dans l'hiver 2019, donc c'est de cet hiver. Et l'article est de attends un petit peu, de Logan Cartier et Yves Lafontaine. Voilà. Alors, un joyau historique au dialogue architecture patrimoniale et contemporaine. Service public et approvisionnement Canada a mandaté l'équipe d'architectes pour concevoir et exécuter des travaux de reconstruction favorisant la protection du patrimoine et le respect de l'intégrité architecturale et des esquisses élaborées en 1885, parce que ça date de 1885, par Eugène-Étienne Taché. Le mandat était également d'ouvrir l'édifice patrimonial, la maison du Régiment des Voltigeurs de Québec de l'armée canadienne, à la population de la ville de Québec et ses visiteurs, pour en faire un lieu public.
D'accord.
Alors, amorcé en 2011, trois ans après, ça a été assez long quand même avant de partir les travaux, le projet de reconstruction du manège militaire inclut quatre principales interventions. Bon, la restauration de l'aile est, datant de 1913-1914, qui abrite des bureaux pour les voltigeurs de Québec, l'ajout d'un pont menant au parc des champs de bataille, et d'une nouvelle aile à l'ouest comprenant des bureaux du gouvernement fédéral à la reconstruction, et également la reconstruction de la salle d'exercice convertie en une salle multifonctionnelle. Et également la construction d'un nouveau foyer au sud de l'immeuble pour supporter les fonctions de cette nouvelle salle, ainsi que la création d'un hall commémoratif pour les voltigeurs. Situé à proximité de l'arrondissement historique du Vieux-Québec, site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il ne faut pas l'oublier, hein. Québec est au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Et quand on y va, on n'est pas étonné que ce
non,
soit le cas.
Non, non.
Parce que c'est tellement une belle ville.
Oui, oui. C'est vraiment un exemple.
La vieille ville avec les fortifications, c'est vraiment beau. Si vous n'êtes jamais allé à Québec, il faut y aller.
Et apparemment, en Amérique du Nord, c'est unique. Il n'y en aurait pas d'autres comme ça de bien, aussi bien préservés. Alors, le manège militaire Voltigeur de Québec s'ouvre sur les plaines d'Abraham, théâtre évidemment... De
là, quand vous parlez des voltigeurs, c'est pas une équipe de sport. Hein.
Non. Isabelle.
Et pas de moi.
Qu'est-ce que vous avez pris comme médicament ce matin?
J'aime mieux pas en parler.
Alors, évidemment, les plaines d'Abraham, c'est le théâtre de l'affrontement des empires français et britanniques qui changera le sort de l'Amérique en 1759, la fameuse bataille des plaines d'Abraham, où Wolfe a remporté...
On n'avait pas gagné.
Ben non. Wolfe a remporté la victoire sur Montcalm. L'approche de conservation patrimoniale propose une valorisation claire et honnête des couches d'histoire du manège. La construction d'origine de 1887, l'agrandissement de 1913-1914, l'incendie de 2008 et le nouveau projet de réhabilitation. Le consortium s'est donc engagé à conserver, stabiliser et assurer la pérennité de tous ces moments importants du manège militaire, et ce, dans un ensemble cohérent et dynamique qui bonifie la valeur culturelle du lieu pour les générations futures. Il y a quelques photos ici, je vous montre.
Wow! Ce qu'ils ont donc fait. Ça, c'est la nouvelle version.
Oui, oui, la nouvelle version, oui. Ils ont vraiment bien, je trouve... Évidemment, il y en a toujours qui vont critiquer. Là, mais... L'incendie de 2008 et les activités de curetage ont mis à jour des vestiges, des marques du temps et des anciennes traces qui méritaient d'être mises en valeur à travers ce projet de réhabilitation. Bon, l'intention d'une telle approche vise donc la rétention de l'histoire, pas l'oublier, de la forme architecturale et de l'aura des lieux. Il ne s'agissait pas de faire une restauration superficielle et sélective de certaines composantes, mais plutôt de révéler les traces et les intentions d'origine de chacune des strates du passé pour atteindre une compréhension globale des caractéristiques du manège. C'est quoi l'âme du manège? Ainsi, à titre d'exemple, les plâtres ont été stabilisées et la maçonnerie, exposée par l'incendie malheureusement, et le retrait défini intérieur endommagé est resté à nu. Afin de favoriser le maintien des désignations patrimoniales, d'optimiser les installations et de les rendre plus utiles à la communauté, ainsi qu'au gouvernement, l'édifice a été agrandi par l'ajout d'éléments contemporains. C'est peut-être ça qui va faire tiquer certaines personnes. Voyez-vous, ici, c'est les éléments ici qu'on a...
Mais ça, donc, c'est un mur de briques grises, mais peut-être un peu plus moderne là, que ouais, le mur en pierre grise.
Oui, ça se fond bien quand même, là. Oui, oui.
Mais l'autre bâtiment, excusez-moi de vous interrompre, parce que vous parlez d'un manège depuis tout à l'heure, puis on ne pense pas qu'on a une vision de... C'est quoi un manège militaire? C'est quoi? Parce que là, c'est comme, dirait un manoir. C'est un gros bâtiment avec des fenêtres.
C'est ça, c'est que ça servait à abriter...
Mais c'est qu'à l'intérieur, ils font des
Les soldats vivaient là, le régiment vit là.
Mais on appelle ça un manège parce qu'ils font des manœuvres.
Oui, ça sert à l'extérieur, surtout. Mais souvent, il y avait près de l'édifice, il y avait... on dit d'ailleurs que c'était près des plaines d'Abraham, parce que regardez à l'arrière.
Oui, c'est vrai qu'on voit les plaines à l'arrière.
Alors, c'est ça. Donc, il y a des places d'exercice comme ça.
D'accord.
Il y a un édifice sur un manège comme ça, sur chemin Côte-des-Neiges, quand on arrive près de la montagne. Et moi, je me rappelle, il y a plusieurs années de ça, les étudiants soldats étaient allés faire des manœuvres dans la montagne même, à la montagne.
D'accord.
Et les gens avaient réagi un peu.
Oui, il y en a qui n'aiment pas trop ça.
Les années 70, là, à l'époque où on était anti-militaire, beaucoup, beaucoup. Alors, afin de favoriser le maintien des désignations patrimoniales, d'optimiser l'installation et de les rendre plus utiles à la communauté ainsi qu'au gouvernement, l'édifice a été agrandi par l'ajout d'éléments contemporains tels que l'aile ouest pour accueillir des bureaux fédéraux et même qu'un foyer d'accueil du côté du parc des champs de bataille. Pour ces éléments, l'équipe a maintenu le parti d'une architecture contemporaine se distinguant de l'existant et prenant soin d'utiliser des matériaux compatibles avec le bâtiment d'origine. Avez-vous les principaux endroits là, qui ont été... regardez ici, vous avez
la salle d'exercice du manège. C'est un très grand espace intérieur avec des poutres apparentes au plafond. Ouais, ouais. Et puis, j'essaie de décrire là, pour les gens qui sont à l'écoute.
C'est qu'à l'époque...
Des très grandes portes... riez pas de moi encore une fois, mais est-ce qu'on fait rentrer des chevaux ou des...
Ben c'est ça, c'est que à l'origine,
des véhicules.
Les manèges comme ça, vous aviez des exercices pour les chevaux, parce que quand ça a été construit à la fin du 19e, il n'y avait pas de tank, il n'y avait pas d'auto, pas de camion, donc c'était la cavalerie. Donc c'était important à ce moment-là qu'ils aient un espace intérieur
très grand.
Surtout avec le climat qu'on a au Québec pour pouvoir se pratiquer. Alors, qu'on a rénové le hall commémoratif, le foyer, la salle multifonctionnelle, l'aile ouest. Alors, on ne dit pas quand c'est actuellement ouvert pour la visite, mais j'imagine oui, parce que ça semblerait. Ah, regardez d'autres photos ici, hein, c'est joli.
Encore des couillards.
Oui, des belles photos. Oui, c'est décorum, la revue.
Beaucoup
alors.
De bois et de pierre. Oui. C'est très beau. Oui, effectivement, ça paraît que c'est dans une revue. On est habitué de prendre des belles photos de maisons.
Oui. Alors
merci,
voilà.
Serge.
C'était le groupe Les Chiens et leur chanson La Ville en Feu.
Ah, Les Chiens, je ne les avais pas reconnus. Merci beaucoup, Mathieu. Et puis, moi, je vais vous parler de La Langue Crie, un balado pour promouvoir la langue crie. C'est un article que j'ai pris sur le site Espace Autochtone de Radio-Canada. Ça a été publié le 7 janvier et excusez-moi, j'ai du mal de la misère avec la technologie, d'après un texte de Rhiannon Johnson. Alors, c'est donc, on nous parle de Nick Wapachi qui a créé le balado In Ayu Ichi, en langue crie, en espérant que les jeunes de la région de la baie de James mettent de côté l'anglais pour se réapproprier la langue de leurs ancêtres. Monsieur Wapachi est né à Nemaska, je savais que j'allais faire le lapsus, à environ 700 km au nord de Montréal. Et l'homme de 29 ans s'inquiète de voir comment l'anglais prend de plus en plus de place au sein de sa communauté. Il y a toujours chez nous cette volonté de vraiment préserver notre culture et notre langue. C'est un désir qui se loge au cœur de notre vie. C'est ce qu'il explique. Donc, et il est membre d'une des 9 communautés cries du Québec. Et cet étudiant journaliste n'a pas eu accès à Internet ni à la télévision par satellite durant une grande partie de son enfance. Et à cette époque, la plupart des membres de la communauté avaient le cri comme langue maternelle. Mais l'arrivée des nouvelles technologies et des chaînes par satellite a eu à la fois un effet de cohésion et de division au sein de la communauté. Parce que même si les gens pouvaient rester connectés sur de grandes distances, ça signifiait aussi qu'ils allaient se rendre visite moins souvent. Il a aussi remarqué, M. Wapachi, que les contenus en anglais sur le web étaient plus accessibles. Et il n'est pas le seul à le constater. Mmh. Même pour nous, francophones, on constate constamment qu'il y a beaucoup plus de contenus en anglais. Mmh. Au début, je n'ai pas beaucoup porté attention à ceux qui exprimaient leurs inquiétudes quant à ce phénomène. Mais on voyait bien que les gens commençaient à parler plus l'anglais que le cri. Et il y a 4 ans, M. Wapachi a déménagé à Toronto pour aller étudier à l'université. De son propre aveu, lui aussi s'est mis à parler davantage l'anglais. Bon, on pourrait croire qu'à Toronto, c'est un petit peu normal. Il ne devait pas avoir le choix. Et lors de ses visites à la maison, par contre, il se souvient d'avoir eu du mal, parfois, à retrouver certains mots cris. Et c'est dans ce contexte qu'il a constaté une augmentation de l'usage de l'anglais, en particulier chez les plus jeunes. Un jour, une conversation avec un aîné de sa communauté l'a finalement poussé à agir. Il disait des choses comme « quand je leur parle aux jeunes, ils ne me comprennent pas ». Alors l'aîné lui a suggéré de créer du contenu en cri. Ensemble, ils ont ainsi passé du temps avec d'autres personnes de la communauté pour enregistrer des récits. Et c'est comme ça qu'a commencé l'aventure du balado In Ayu Ichi, dont le nom fait référence au territoire des Nations Cries. C'est une idée géniale, se réjouit Joshua Iserhoff, directeur adjoint de la fondation communautaire Cri Innu Ayu, et qui connaît Nick Wapachi depuis son enfance. Le déclin des langues autochtones au Canada est quelque chose de triste et de très décourageant, selon M. Iserhoff. Avoir accès à un balado en langue crie nous apporte de l'espoir. On reste fiers de voir que notre langue autochtone demeure forte chez nous. L'Assemblée générale des Nations unies, par contre, et ça je l'ai appris en lisant l'article, a proclamé 2019 Année internationale des langues autochtones afin de sensibiliser les populations sur les risques critiques qui touchent ces langues, tout en mettant en valeur les liens importants qu'elles ont sur l'identité et la culture. Et donc, c'est probablement pas la dernière fois que je vous parle de langues autochtones cette année. Lors du recensement de Statistique Canada de 2016, donc le dernier recensement, 96 575 personnes ont déclaré parler le cri, ce qui en fait la langue autochtone la plus utilisée au Canada. On apprend également que 26 % des locuteurs de toutes les langues autochtones du pays l'avaient apprise comme langue seconde, contre 18 % en 1996. Nous venons, on est mes genoux. Nous venons, on est mes genoux. Nous ne sommes pas on est mes genoux. Ooh.
kanana kote wechia kote kanyu ya amesta mesta mesta meskano
C'est Jean-Sébastien présenter la chanson, mais comme c'était Mishta Meshkenu et qui vient d'arriver, je me suis dit non, je pense que je vais le faire. C'était Florent Volant, donc.
Merci beaucoup. C'est une de mes chansons préférées de Florent Volant sur son nouvel album. Et maintenant, on va parler de ces femmes qu'on retrouve à l'occasion, parfois rarement, oui, sur les timbres.
Les femmes sur timbres. Ben, c'est un article de 1990, je le trouvais intéressant. Dans la revue Cap au Diamant du printemps 90, un article d'Yves Potvin qui s'intitule « Les femmes sur timbre, un inexcusable retard ». À première vue, les femmes semblent assez bien représentées sur les timbres canadiens. Dès la toute première série émise en 1851, évidemment, c'est la reine Victoria qui donnait le ton à la très forte présence féminine qui caractérise la philatélie canadienne jusqu'en 1901. C'est maintenant le deuxième plus long règne de l'histoire, parce que le premier maintenant, c'est la reine Élisabeth II, qui est là actuellement. Alors, la reine Victoria, à l'époque, ben, les timbres et la monnaie, c'était l'effigie du souverain. Donc, elle a été sur les timbres et la monnaie tout le long de son règne. Entre 1868 et 1901, les timbres canadiens portent l'effigie de la reine Victoria. Pendant près de 30 ans, presque aucun visage masculin ne vient troubler cette habitude. Pour tous les collectionneurs, la philatélie du 19e siècle demeure l'âge d'or de la représentation féminine au Canada. Alimenté par un très long règne, cet âge d'or atteint l'apothéose philatélique en 1897, alors qu'on célèbre le jubilé soulignant le 60e anniversaire de Victoria au trône. Au total, 16 timbres, certains parmi les plus difficiles à trouver aujourd'hui, soulignent l'événement. Ce sommet ressemble pourtant à un chant du cygne aussi bien pour la reine Victoria que pour la représentation des femmes dans la philatélie canadienne. Après 1900, les femmes disparaissent du décor carrément. À l'exception de quelques allégories et de furtives apparitions de princesses, on ne verra pratiquement plus de femmes avant l'avènement de la reine Élisabeth II en 1953, presque 50 ans.
C'est quand même une longue période.
Oui, les 50 premières années du siècle serviront surtout à encenser des hommes célèbres tels des découvreurs ou quelques grands politiciens. À cette époque, les thèmes donnent l'impression que les femmes ne contribuent en rien à l'histoire de ce pays. Avec le règne d'Élisabeth II, on retrouve enfin un visage féminin dans l'affranchissement du courrier. Abstraction faite des émissions courantes, il faut bien constater toutefois la très lente évolution de la condition féminine. Le ministère des Postes se contente de rendre hommage de 1958 et 1959 au métier d'infirmière ou à l'Union mondiale des femmes rurales avant de lancer en 1961 un timbre en l'honneur d'Emilie Pauline Johnson, poétesse amérindienne.
Ah oui?
Ouais. Il faudra patienter jusqu'en 1973 pour que les Postes canadiennes honorent d'autres femmes célèbres, comme l'hommage tardif rendu à Jeanne Mance en 1973, comme l'hommage tardif rendu à Jeanne Mance en 1973 risquait d'indisposer les anglophones, les autorités postales profitent de l'occasion pour souligner le rôle de Nellie McClary dans l'obtention du droit de vote des femmes au Canada anglais. En 1975, le Canada reconnaît l'apport de Marguerite Bourgeois. Peu après, les autorités postales s'empressent d'illustrer plus ou moins habilement le rôle des femmes aux Jeux olympiques. Au passage, on reconnaît l'apport de l'auteur Lucie Maud Montgomery avant de consacrer une vignette à l'année internationale de la femme. Stupéfaction immédiate chez les uns, haussement d'épaules chez les autres. En cette année internationale, Poste Canada n'avait rien de plus original à offrir que le symbole biologique féminin. De son côté, le catalogue Scott, véritable bible philatélique, identifie ce timbre comme le « female symbol », l'expression grinche encore aux oreilles des collectionneurs des deux sexes. Depuis ce temps, le Canada tente de redorer un peu son blason. Les noms de Marguerite Dioville, Marie de l'Incarnation, Kateri Tekakwitha ont été retenus. Thérèse Casgrain et Emily Murphy ont elles aussi eu droit à leur thème. Ben, depuis là, on est en 90, alors on est en 2018. Il y a beaucoup de...
On a fait un peu de rattrapage.
Oui. La philatélie canadienne paraît toutefois plus empressée d'illustrer des animaux que des femmes marquantes dans l'histoire de la nation.
Les animaux aussi.
Rendons cependant justice aux postes qui tentent maintenant d'accorder une plus grande place aux femmes. Ainsi, en 81, les autorités postales soulignaient le rôle de quatre femmes réformatrices. Lorsque les collectionneurs virent les timbres à l'effigie d'Emily Stowe, Louise McKinney, Idola Saint-Jean et Henrietta Edward, ils s'empressèrent de qualifier les timbres de...
Bloc féministe.
Dans cette trop lente évolution, les collectionneurs ont peut-être une part de responsabilité. Et voilà.
Ben, merci beaucoup, Serge. Et c'est ce qui met fin à la première partie des voies de service aujourd'hui. On vous revient après une courte pause. Les voies de service, deuxième partie. Bonjour. Alors, on est de retour avec d'autres sujets. De mon côté, je vais vous parler de comment... de la surpopulation des enfants autochtones dans les foyers d'accueil. Ça, je vous en ai déjà parlé à quelques reprises. Mais là, on parle de solutions et peut-être de prévention. Aller travailler en amont, comme on dit. De votre côté, Serge?
Je vais vous parler d'un théâtre, un des plus anciens théâtres de Montréal, le Monument national sur la rue Saint-Laurent.
Ah oui.
Et puis, évidemment... Et en terminant, dernière partie de l'émission, la médecine médiévale.
Oh, on en aura bien besoin, les remèdes de grand-mère.
Mais peut-être...
Non, peut-être pas. Hein?
Jean Sensible s'abstenir.
C'est de parler de saigner.
Jean-Sébastien est arrivé, il est plus solide un peu. Mathieu, j'aurais eu peur. J'aurais eu peur qu'il devienne pâle et qu'il s'effondre dans
la vie. Merci, Serge. Alors, on commence tout de suite avec ces monuments nationaux.
Oui. Alors, j'ai eu le bonheur samedi soir d'assister au spectacle Les Choristes. Et vous avez, vous aussi d'ailleurs, vu ce spectacle.
Oui, j'ai vraiment
aimé. Nous ne l'avons pas vu ensemble. Attention, là, je ne veux pas partir de cancan. Des fois,
j'étais là avec des amis.
Personne mal intentionné. Moi aussi avec des amis samedi. Mais vous,
c'était pas samedi. Les mêmes amis. Non, moi, c'était un jeudi.
Ouais. Un spectacle merveilleux. Hein. On sort de là. C'est du bonheur, ce spectacle-là.
C'est comme vous disiez tout à l'heure, hors d'onde, là, c'est un spectacle qui met de bonne humeur.
Ouais.
Ça nous remonte le moral.
Oui, on sent
un feel-good théâtre, comme on dit.
Quand il y a des chants, et surtout des chants de cœur, des chœurs, c'est touchant, je trouve.
Moi, je dis souvent, les harmonies vocales, ça vient chercher une zone dans notre cerveau qui déclenche le plaisir.
Oui, effectivement, oui. Alors, le Monument national est l'un des plus anciens théâtres de Montréal. Il est situé sur le boulevard Saint-Laurent, au sud de la rue Sainte-Catherine. Il est classé comme lieu historique pour son architecture et son rôle important dans la vie culturelle de Montréal. Laurent-Olivier David, président de la Société Saint-Jean-Baptiste, de 1887 à 1893, et également ministre provincial, doit concevoir et réaliser l'édifice du Monument national. Pour le financer, il demande au premier ministre Honoré Mercier la mise en place d'une loterie annuelle.
Ah bon?
Évidemment, le clergé s'y oppose. Alors, malgré l'opposition du clergé, un arrêté en conseil de 1890 établit la loterie de la province de Québec, qui sera renommée la loterie du peuple. La Citizens League et le Witness font campagne contre cette loterie. Le monument national est érigé entre 1891 et 1894 par la Société Saint-Jean-Baptiste pour tenir lieu de centre culturel canadien-français et abriter les services administratifs de la société. Parce qu'à l'époque, je pense que il y avait beaucoup de théâtre à Montréal, on était dans l'Ouest, et c'était les anglophones qui les dirigeaient.
C'est ça, donc on n'avait pas notre théâtre commun à nous.
Non. Bien qu'inachevé, il est inauguré le 24 juin 1893. Il accueille une foule de spectacles musicaux et lyriques, avec notamment la très grande Emma Albany. Emma Albany est une chanteuse, une soprano québécoise qui a fait une carrière internationale.
Ah oui.
Elle a chanté, elle était une des premières, elle a été longtemps la première soprano à Covent Garden.
Alors,
elle a chanté au Met, a chanté en Italie, une très, très, très grande voix. J'ai déjà eu un enregistrement qui avait été mis sur vinyle. À l'époque, c'était sur des rouleaux de cire. On pouvait voir, là, quand même, imaginer un peu la voix. Évidemment, et aussi Édith Piaf.
Elle est venue au Monument national.
Oui. Les Veillées du bon vieux temps, en 1921-41, de Conrad Gauthier. La Société canadienne d'opérette, en 1923-1933. Les Variétés lyriques, de 1936 à 1955. Ainsi que les revues Fridolinon, de Gracien Gélinas, de 1938 à 1946. Petite note, les variétés lyriques, là, de 36 à 55, en 55, ils ont arrêté parce que la télévision a été créée en 52 et les gens délaissaient le théâtre pour la télévision. Plusieurs orateurs célèbres y ont fait des discours, dont Henri Bourassa et David Ben-Gourion.
Ah oui?
Le premier ministre d'Israël.
Wow.
Oui. Ben, j'imagine à l'époque où il militait pour la création d'un État juif en Palestine. Ça devait être dans les années 30. Évidemment, et aussi le Monument national a servi au théâtre yiddish.
Ah, mais bon.
Chose qu'on ne connaît pas. Le Monument national a été une scène très importante pour les troupes de théâtre yiddish à Montréal.
J'avoue que j'ai vu une plaque qui commémorait ça quand je suis allée.
Oui. Il a contribué à l'affaire de la scène théâtrale yiddish de Montréal, la plus active après New York.
Quand même.
Remarquable,
hein?
La troupe de Dora Wasserman s'y est produite à de nombreuses reprises. Alors, c'est, le bâtiment, c'est un bâtiment à structure d'acier de style néo-renaissance, avec revêtement en pierre de taille grise de Montréal en façade et revêtement de pierre de taille et brique à l'arrière. Son théâtre comportait à l'origine 1620 places. C'était grand.
C'est vraiment hein, beaucoup.
Gros, ouais. Il est reconnu comme un lieu historique national du Canada en 1985. En 1971, l'École nationale de théâtre fait l'acquisition de l'édifice pour 350 000 $. Oh. Il est classé, bon, en 71, 350 000 aujourd'hui.
Ça fait quand même beaucoup d'argent.
Dans les millions. Ça.
Ouais.
Il est classé monument historique par le gouvernement du Québec le 3 novembre 1976. Et en 1989, un projet de restauration est annoncé afin de le remettre à neuf pour son centenaire en juin 1993. Au début du 21e siècle, le Monument national, nouvelle orthographe depuis 1993, compte trois salles de spectacle. La salle Ludger Duvernay, où on a vu les choristes. Le studio Hydro-Québec et le petit théâtre La Balustrade. Ça, je pense que c'est le théâtre qui est sur la rue. On voit sur la rue, là. Les fenêtres sont sur,
oui,
c'est
oui,
en
oui,
bas.
Oui.
La salle Hydro-Québec, je ne sais pas, je ne l'ai pas vue, celle-là. Alors voilà, c'est ça, c'est le Monument national.
Merci beaucoup, Serge.
Pleure un peu, pleure ta tête de vie. Dans le feu des épées, devant dans tes cheveux. Parmi les éclats sourds de béton sur tes parois, sur tes parois. Ta longue et bonne tête de la journée, ta tête de pluie enseignante, et pelure et callosité, ta tête de mort. Ta tête de mort. Que je meure ici, au cœur de la cible, au cœur des hommes et des horaires. Que je meure ici, au cœur de la cible, au cœur des hommes. Réfugié en solitude, ni remuer la braise dans le bruit du silence, ni ouvrir la paupière ainsi qu'un départ d'oiseau dans la savane. Car il n'y a plus un seul endroit de la chair de solitude qui ne soit meurtrie. Même les mots que j'invente ont leur petite aigrette de chair bleuie. Que je meure ici, au cœur de la cible, au cœur des hommes et des oreilles. Je meurs ici, au cœur de la cible. Souvenir, souvenir, maison lente. Un cours d'eau me traverse, je sais. C'est la nord de mon enfance, avec ses mains d'obscure tendresse qui voltait sur mes épaules. Ses mains de latitude, de plénitude, et mes 20 ans et quelques dérives, au gré des avenirs mortes, mes nuques dans le vide, dans le vide. Je meurs ici, au cœur de la cible, au cœur des hommes et des oreilles. Que je meurs ici, au cœur de la cible.
On passe d'un monument national à un autre. C'était la poésie de Gaston Miron, chantée ici par Daniel Lavoie, « Ce monde sans issue » de Gaston Miron, dont on soulignait l'anniversaire de naissance hier, le 8 janvier.
Merci beaucoup, Jean-Sébastien. C'est vraiment, c'est effectivement de la poésie. Je ne savais pas que ça venait vraiment d'un poème, mais je trouvais que c'était vraiment très poétique comme chanson. Et puis la belle voix de Daniel Lavoie. Et c'est ce qui m'amène à vous parler d'un sujet complètement différent. Contrer la surreprésentation des enfants autochtones dans les foyers d'accueil. C'est un article que j'ai pris sur le site d'ICI Radio-Canada hier, donc le 8 janvier. Et c'est d'après des informations de CBC. Alors, c'est l'hôpital Saint-Michel et le groupe de sages-femmes Seventh Generation Midwives de Toronto qui veulent réduire le nombre d'enfants autochtones placés en foyer d'accueil en améliorant les services offerts aux femmes enceintes. Il faut savoir que les enfants autochtones comptent pour environ 30 % des enfants dans les foyers d'accueil en Ontario, alors qu'ils ne représentent que 4,1 % de la population de moins de 15 ans. Donc, c'est vraiment assez frappant. Ça, c'est selon un rapport de la Commission ontarienne des droits de la personne qui a été publié ce printemps. Les antécédents d'oppression des peuples autochtones et la discrimination à laquelle ils continuent de se heurter ont créé de nombreux désavantages économiques et sociaux, comme de faibles niveaux de scolarisation, des taux élevés de chômage, des niveaux de pauvreté extrêmes, des logements inadéquats et des disparités sur le plan de la santé. C'est toujours la commission qui explique ça. Et donc, dans l'espoir de renverser cette tendance, l'hôpital Saint-Michel et la clinique Seventh Generation Midwives offrent aux femmes autochtones différents services pré- et post-nataux en collaboration avec des organismes de la ville. Nous nous assurons qu'elles ont accès à ce dont elles ont besoin, notamment un logement et de la nourriture, et que les services sont offerts de manière coordonnée, nous dit la vice-présidente de la recherche de l'hôpital Saint-Michel, Patricia Ocampo. Pour la sage-femme Sarah Wolf du groupe Seventh Generation Midwives, ce projet permet aussi d'offrir aux femmes autochtones un système de soutien. Par exemple, tous les lundis, un groupe de femmes se rassemble pour échanger des conseils. Lorsqu'il existe des traumatismes intergénérationnels, les femmes peuvent ne pas avoir accès à un réseau familial pour les soutenir dans leur nouveau rôle parental. Et Charlie Anna Tony, cliente de la clinique, affirme que les soins sont offerts d'une manière qui est plus personnelle et respectueuse des traditions autochtones. « Je me sens fière d'être Anishinaabe », dit-elle. Avant, ce n'était pas le cas. Au cours des 3 prochaines années, des chercheurs examineront l'impact de ce programme sur le nombre d'enfants autochtones placés en foyer d'accueil. Et d'ici là, le gouvernement fédéral compte déposer cette année un projet de loi pour réduire le nombre d'enfants autochtones retirés de leur foyer. Et je termine avec une statistique plus globale. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'Ontario, mais au Canada, les enfants autochtones représentent 52,2 % de tous les enfants placés en famille d'accueil, alors qu'ils ne forment que 7,7 % de la population de moins de 15 ans. Alors, c'est quand même assez frappant. Merci.
On chante au nom du peuple, au nom de la mère terre. Que les peuples s'unissent et qu'on enterre la hache de guerre. Moi je viens d'un monde complètement différent, sur une réserve indienne mais issue de père blanc. L'héritage de ma mère, mes origines algonquines, tellement mêlées en cours de route sur ma propre estime. Suis-je amérindien ou blanc, et est-ce à moi de décider? J'ai compris que j'étais humain mais séparé d'une moitié. Y'a un peuple qui me parle et qui me rapproche de la mère terre, pendant que de l'autre côté on me dit que je marche pas sur mes terres. Y'a des milliards de gens, donc des milliards de races. Puis le message, pas juste d'avoir une bizarre de face. On n'a plus de plumes ni de flèches, j'ai à courir sur des chevaux. On a le job internet, puis on mange du McDo. On sort de la réalité, on ignore la vérité. Je récite la suite d'une histoire non terminée.
Chigui uni non, jay gwan chi ma hige no a chu ka be do wa sta yang ni shi mu no a chu ka be do et yak chi gen ta da no pe go do te gwan chi jis pa de na no pe go do te gwan chi niga ji go da no na na es ka ji ga chi niga ji go no bu me che yak mu pe che ta no bu me chi gui ma mu no ma chi gui na ni bu no ma mu te bu yak no ke ta chi ke be da go no
sa mian sha we ya man that's it digo gan na yo te na mo re set le même shit la même problématique d'être sauvage d'une métaphore d'Abitibi à Côte-Nord où on explore les territoires
tu m'as oui non tu as oui cheat nano nous tu veux chaud tu n'as pas nam tam ta yak mamo tu m'as oui non tu as oui cheat nano nous tu veux chaud tu n'as pas get it in the no
Nigini zido dane awo yago we anna nishni tapita wizi win antawa kayago kitaya moko kichi bishwa maki jojo minana kiko hine gena Godagi waka we yago kitiko ke kani nitake kake jipi moze an kichi mane awo yago kte wake pepagan inaganezi watch e apita wizi watch kia win win etai mochi jina gozi watch kizaga amin e image ichi Te akopan kawin kiki keni dasinanan maya te puewin win ne tipa chimonan e gama shegi si chigade kadiso gan
Samian shawir yeah man that's it digo gan na yo te namore c'est le même shit la même problématique d'être sauvage d'une métaphore d'Abitibi à Côte-Nord où on explore les territoires Tu m'as oui non tu as oui cheat nano no tu veux chaud tu n'as pas nam tam ta yak mamo Tu m'as oui non tu as oui cheat nano Nuchu gu shu chi nong get it in the nong Chu ma wi nong chu a wi chi na no Nuchu gu shu chi nong nam dam da yak ma mo Chu ma wi nong chu a wi chi na no Nuchu gu shu chi nong get it in the nong
Et on passe d'une poésie à un tout autre type de poésie, Samian et Shawit qui nous chantaient « Les nomades ».
J'avoue que je suis moins en mesure d'évaluer la qualité de la poésie, mais la musique me fait danser. Merci beaucoup. Et c'est là que vous allez enfin nous parler des remèdes, peut-être pas qu'on... ça va peut-être pas nous inspirer pour aujourd'hui, mais les remèdes médiévaux, oui. C'est vrai qu'ils sont pas réputés pour avoir été très efficaces.
certains oui. Bon,
d'accord.
Parce qu'on parlait, on utilisait les plantes, hein, beaucoup de plantes. Alors,
Les sorcières qui utilisaient les plantes, mais les vrais médecins, eux, ils rendaient les gens malades. S'en suffit à ce qu'on lit aujourd'hui.
Ouais. Alors, c'est un article dans la presse de dimanche dernier, le 6, alors de Nicolas Bérubé. Le titre, « Médecine médiévale, bave d'escargot, urine chaude et autres remèdes ».
Ça donne le goût tout de suite en partant.
Oui, Jean-Sébastien et moi, nous sommes des messieurs de forte constitution. Isabelle, vous êtes résistante. Alors, si Mathieu
avait... Je vous remercie de ne pas parler de ma constitution.
Si Mathieu avait été là, peut-être, comme je l'ai dit, il serait évanoui, mais bon, en tout cas. Alors, de l'urine chaude vieillie durant 8 jours pour soigner votre acné, à la bave d'escargot rouge bouilli pour guérir votre œil infecté.
Oh!
Certains remèdes utilisés au Moyen-Âge étaient quelque chose. Dans son nouveau livre « Revolting Remedies from the Middle Ages », qu'on peut traduire par « Remèdes révolutionnaires du Moyen-Âge ».
Non, je pense que c'est plus « Révoltant ».
Révoltant, ouais, oui. Bon. Aux éditions Bodleian Library, si ça vous intéresse, Daniel Vaclin, professeur de paléographie anglaise médiévale à l'Université d'Oxford, a compilé avec ses étudiants les concoctions les plus dégoûtantes. Alors, ça commence avant les recettes par une entrevue. Alors, comment l'idée de trouver et de traduire les remèdes les plus dégoûtants est-elle née? La réponse, l'idée de ce livre est née de mes cours à l'Université d'Oxford. J'apprends aux étudiants à la maîtrise à lire des manuscrits médiévaux et pour rendre la tâche plus agréable, je leur suggère de temps en temps de s'exercer à lire ces remèdes étranges dans des manuscrits qui n'ont pas été imprimés ni distribués dans la plupart des cas. On comprend pourquoi.
Ouais.
Il y a 2 ans, les étudiants ont transcrit quelques manuscrits et j'ai pensé que le public pourrait vouloir lire ces remèdes qui sont bizarres et scandaleux. Allez voir ça tout à l'heure. Quelle était la réaction de vos étudiants? Les étudiants les adorent. Bon, C'est pas surprenant, les étudiants sont toujours un peu...
Mais c'est toujours agréable de lire des choses bizarres.
Les remèdes sont souvent dégoûtants ou choquants, mais ils sont aussi fascinants parce qu'ils n'ont pas été composés seulement par des médecins professionnels, mais aussi par des hommes et des femmes ordinaires. Donc, ces remèdes sont aussi une trace de la vie quotidienne et des peurs, des espérances et des croyances du peuple. Ces gens avaient de curieuses idées sur le fonctionnement du corps, de la magie, etc. Cela vous donne-t-il une appréciation renouvelée de la médecine moderne? Réponse: oui, absolument. D'un côté, j'ai du respect pour les médecins médiévaux, qui ont découvert bien sûr quelques remèdes qui marchaient, et marchent encore. Isabelle, ben, la bave d'escargot, la bave d'escargot est vraiment antiseptique,
maintenant. Mais voyons donc.
Ah, en tout cas, c'est là.
Bon. Qui a pu avoir l'idée
d'essayer ça puis de tester scientifiquement si ça fonctionnait?
Moi, je ne savais même pas avant ce matin que les escargots bavaient.
Moi non plus.
Mais peut-être qu'on parle de ce qu'ils laissent là, comme traîner dans...
Le... Oui, maman, mon Dieu.
Ah, en tout cas.
Vous mettez ça dans l'œil qu'on avait dit tout à l'heure?
Ça ne me tente pas trop. Je pense que j'aime mieux garder mon infection. Oui.
J'adore enseigner aux étudiants la littérature médiévale et les aider à faire des recherches par eux-mêmes, mais je n'ai pas la nostalgie du passé. Alors, passons à la partie la plus intéressante de l'article. Quelques remèdes médiévaux répertoriés par l'équipe de Daniel Vaclin. Pour qu'une femme aime son mari et cesse de draguer d'autres hommes. Jean-Sébastien, on écoute? Moi aussi. Messieurs, à l'écoute. Prenez la patte arrière gauche d'un loup, retirez la moelle de l'os et gardez-la avec vous. Votre femme ne vous quittera jamais. Je comprends absolument pas le lien entre les... Pour soigner un visage boutonneux.
Ah.
Prenez de l'urine vieille.
Là, c'est là qu'on l'a fait vieillir 7 jours, c'est ça, vous disiez tout à l'heure?
8.
8 jours.
Prenez de l'urine vieille de 8 jours.
8 jours, excusez-moi.
Et chauffez-la au-dessus du feu. Lavez-vous le visage avec celle-ci matin et soir.
Mais au moins, c'est
au moins le matin. Mais le soir, si tu dors pas tout seul, franchement.
Je pose la question, mais je veux pas nécessairement la réponse. Pourquoi 8 jours?
Ah!
Pas 7, pas 9.
Non, ah, c'est ça,
8. 8, 8, 8. Pour arrêter des saignements de nez. Ah ben ça, toi. Bon. Si un homme saigne du nez. Non, c'est parce que...
ça va être drôle.
Non, ça va être difficile parce que ça me fait pousser quand je ris.
Si un homme saigne du nez, immergez ses testicules dans du vinaigre. Prenez un chiffon imbibé de vinaigre et mouillez l'espace entre ses sourcils et son front.
Est-ce que c'est le même vinaigre dans lequel ses testicules ont trempé?
Si c'est une femme, bon, c'est une femme.
Oh, je veux pas le savoir.
Immergez ses seins dans du vinaigre. Le saignement de nez va s'arrêter tout de suite.
Est-ce qu'on n'est pas certain plutôt que c'est juste changer le mal de place, ça?
Pour vous débarrasser des taches de rousseur, prenez le sang d'un lièvre ou le sang d'un taureau et enduisez-en le visage de la personne qui a des taches de rousseur.
Là, on les verra plus, ça va être juste rouge.
C'est ça. Cela va les éliminer complètement.
Oh, mon Dieu.
Ça, c'est du maquillage, finalement.
Oui.
C'est ça.
Pour éloigner un homme qui a été brutalement abattu. Alors, prenez une plante de la famille des astéracées et faites-la bouillir dans une bonne bière, puis faites-en boire au patient matin et soir. Ah ben, c'est intéressant. La nuit, faites un lit au patient dans un tas de crottins de cheval et couchez-le dedans.
Oh, ça c'est pourquoi?
Pour soigner un homme qui a été brutalement battu.
Ouais, ça aussi, ça doit changer le mal de place un peu.
Ouais. Hein. Pour soulager les seins gonflés de lait, gorgés de lait.
Oui.
Oh Seigneur. Badigeonnez les seins avec du gras d'écureuil. Le lait va sortir d'un coup, semble-t-il.
Ah! Oh.
Puis donner à boire au bébé, c'est pas une solution plus simple?
c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit.
Pour soigner les cataractes, prenez de l'eau infusée de fenouil et de marguerite.
Ben moi, ça doit sentir bon.
Oui. Et mettez-la dans les yeux. Buvez un potage de tige de chou finement moulu, ou alors prenez le sang encore chaud d'une de vos colombes et mettez-le dans les yeux.
On aimait vraiment utiliser le sang de toutes sortes d'animaux.
Oui,
hein?
oui.
Fait que là, dans le fond, on donne une recette pour une tisane, mais au lieu de la boire, on se met les yeux dans la tisane.
Ouais.
Mais c'est pour les cataractes en même temps. Donc, c'est une solution topique.
Ouais.
Pour guérir plusieurs types de maux affectant les yeux, prenez un escargot rouge, faites-le bouillir et faites-le cuire dans de l'eau. ramassez la bave, encore la bave, et enduisez-en vos yeux. Ou bien, brûlez l'escargot en poudre et mettez la poudre sur vos yeux, cela va les guérir, etc., etc.
Etc.
La dernière, pour guérir un homme qui est devenu fou, après un de ces traitements-là, peut-être.
Oui, on commence à s'en douter.
Prenez des graines de gentiane et de rue des jardins et donnez-les aux malades pour qu'ils les boivent, mélangés avec du vinaigre. Le vinaigre revient souvent. Hein?
Oui, oui.
Rasez-lui la tête. Prenez un coq noir, tranché en deux, et déposez-le sur la tête et déposez-le sur la tête du patient alors qu'il est encore chaud et attachez-le en place.
Arc.
Laissez-le là. Après 3 jours, faites quelques saignées sur son front. Ce remède est éprouvé, vraiment.
Donc, je pense que si l'homme n'était pas fou avant le traitement, il va définitivement l'être
oui,
après.
Oui, oui.
C'est
un bon sacrifice animal pour couronner tout ça. Hey, merci, Serge.
Alors, un livre, Revolting Remedies from the Middle Ages. Je ne sais pas, peut-être que ça sera traduit en français.
On est vraiment bien à notre époque, en tout cas, je peux vous dire ça. Merci beaucoup. Alors, c'est ce qui termine notre émission d'aujourd'hui. Merci à Mathieu Tessier qui a remplacé en première partie Jean-Sébastien Laliberté, qui était avec nous en deuxième partie, donc à la mise en onde et aux choix musicaux. Merci, Serge Bradet. Et moi-même, Isabelle Falardeau, ben, je vous dis à la semaine prochaine. Merci.
Bye.